nimm guter Klezmer dein Fiddle in Hand und spiel mir das Liedel von goldenem Land. Amol fleck mein Mamei mit Herz und Gefühl, das Liedel mir singen, euch spiel es mir spiel. Amol fleck mein Mamei mit Herz und Gefühl, das Liedel mir singen, euch spiel es mir spiel.
L'étoffe de la langue, Stoff und Sprache, The Fabric of Language, une émission conçue et réalisée par Isabelle Rosenbaumas. Cette émission est une enquête auprès de ceux qui tissent le matériau précieux du yiddish. Autant dire que nous allons suivre des fils. La langue yiddish a été pendant ces dernières décennies une planète qui se réveille plus tôt en été. Celle des séminaires, programmes d'enseignement, conférences spécialisées, stages de klezmer, voyages à thème. Pourtant, des milliers d'utilisateurs, pas toujours rigoureux, du mameloshen et du tateloshen, ont dans l'oreille une langue colorée, entendue à la maison et dans les chansons. Je tente ici de jeter un pont entre ceux qui se souviennent et n'ont parfois gardé du yiddish que le sentiment douloureux de la perte et ceux qui maintiennent et élaborent la langue. Une fois par mois, en anglais ou en français, parfois en yiddish, nous présenterons ici ceux qui en connaissent les arcanes et la transmettent à de nouvelles générations. Qui sont les orfèvres qui forgent nos dictionnaires et notre lexique, élaborent nos manuels d'apprentissage? D'où sortent les poètes et les traducteurs d'aujourd'hui, les rédacteurs de nos journaux et les organisateurs de nos séminaires? Et d'où nous viennent les chefs de chœur, les acteurs de la scène yiddish, qui montent ou adaptent le répertoire, les geeks qui créent les applications pour étudier le yiddish en ligne et transposent nos dictionnaires dans l'univers digital? Je vous invite à explorer la ruche de notre planète B613, où la langue de nos parents et grands-parents se transforme en friandises d'or.
Und herrich das Liedel, dann schwebt vor mir bald mein teure Mame, ihr lieblich Gestalt, ihr harziger Schmeichel, ihr zärtlicher Blick. Sei wecken mir auf mein vergangenem Glück, ihr harziger Schmeichel, ihr zärtlicher Blick. Sei wecken mir auf mein vergangenem Glück.
Jacinta, j'aimerais te présenter à Laurent Demal. Je pense que vous avez au moins deux ou trois langues en commun, peut-être quatre. Voilà, je vous laisse la parole.
Bonjour Jacinta.
Bonjour Laurent. La première langue, c'est laquelle?
Bon, pour moi, malheureusement, très banalement, le français, même si j'adore le français, mais peut-être qu'on a l'espagnol plus profondément.
Mais ma toute première langue, c'est l'espagnol.
Ouais.
Comme tu le sais, je suis née en Argentine.
Alors, je voulais te poser toutes ces questions, justement. En fait, on ne va pas faire le tour des langues, on les fera au fur et à mesure.
D'accord.
Je voulais te demander où tu étais née, et voilà, ton enfance.
Buenos Aires. Je suis porteña. Porteña, ce sont les gens du port, dans la ville. Mais...
Porteña de alma y de corazón.
Si, completamente. Ils me demandent porteña d'âme et de cœur. Je dis oui, totalement. Buenos Aires, c'est ma ville. Ce sont mes parfums. C'est le jardin de la maison. Tout ce que j'ai quitté. Hier, justement, j'étais en train de donner cours. J'ai trois groupes. Je dirige une chorale yiddish. Et j'avais le groupe numéro 1, ce sont des bobes, ce sont des aïdes, hein, donc les grands-mères et les grands-parents, les grands-pères. Et je leur parlais de Bells. On peut rentrer dans l'étude de cette chanson, de cette musique, ce qu'elle nous dit, comment elle nous parle, les changements musicaux dans Bells, pourquoi est-ce qu'elle nous fait tellement mal. Et j'ai pensé à la maison des parents qui a été vendue il y a 2 ans, parce que mon papa est devenu un colibri rouge. Colibri rouge, il est parti. Spiel sich einer wieder Lidl. Vos geben und vos verzeihen, reutis Blut und reutis Wein. Voilà, donc le vin et le sang qui sont rouges. Mon papa est devenu un colibri rouge le 7 mars de l'année 14. Il se trouve que le jour de sa mort, un colibri, ma mère, mon frère et la dame de compagnie ont vu un colibri vouloir rentrer par la porte. Jamais avant, ils avaient vu un colibri. Et je me préparais à ça. Donc bref, mon père parti et ma mère toute seule dans cette maison, c'était impossible. Donc on a vendu, mon frère et moi, on a vendu la maison. Et j'ai entamé un dialogue sympathique avec la nouvelle propriétaire. Et elle m'a envoyé les photos de la maison. Donc je ne reconnais plus rien. Gone it that can't, comme on dit dans la chanson Bells. Mais il faut faire comme ça, il faut apprendre à se avoir mal, apprendre à se dire qu'on s'écarte des choses, de ce qui est matériel, on le laisse de côté, parce que ce que l'on va emporter avec soi, c'est même rien de nous-mêmes, peut-être juste la saveur de la terre.
Et alors dans ton belt Porteigne, dont tu n'emporteras pas peut-être les meubles, etc., et dont on n'emporte jamais rien parce que finalement les choses importantes elles sont pas vraiment tangibles. Est-ce que dans ton belt Porteigne, il y avait déjà de la musique? Est-ce qu'il y avait déjà de la musique, beaucoup de musique? Quelle musique? En espagnol, en yiddish, dans d'autres langues?
Tout, tout. Parce que...
Alors justement, qu'est-ce que vous écoutiez à la maison?
Bon, j'avais des vieux disques 78 tours de musique polonaise, de musique russe, des musiques yiddish. Donc c'est comme ça qu'à part la voix de mon père, que pour moi était le plus grand chanteur yiddish qui soit, Itzhe Schlechtman, il avait une voix extraordinaire, vraiment. Mais la deuxième voix extraordinaire que j'ai entendue sur un disque 78 tours, c'était Bencian Vitler, qui a d'ailleurs vécu en Argentine avec Schifrer. Et lui, il me chantait en yiddish. Et ma mère écoutait la radio, elle mettait toujours Radio Classica. Donc c'était Maria Callas, c'était les grands chanteurs, c'était Pavarotti un tout petit peu plus tard. Mais en général, c'était vraiment les grandes voix de la culture lyrique. Et je me souviens aussi, je devais avoir 7 ans, et je rentrais de l'école, je me dis peut-être que tout est hasard, rien est fait comme on croit qu'on établit, qu'on prépare son destin et qu'on construit sa vie. Et je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Je rentre de l'école, donc je devais avoir 6 ans, et ma mère écoute la radio. Toujours la cuisine et la radio. Et ce jour-là, ce n'était pas de la musique classique, c'était... Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et je ne comprenais pas le français. Je suis arrivée en France en 77, en suivant l'homme qui fut mon mari. Parce que d'abord, il a fait comme Kant, il a voulu essayer de voir si on vivait bien ensemble. Et quand il a compris que j'étais plutôt une bonne femme pour lui, il a dit d'accord, on va se marier. Donc on s'est marié en 89. Donc en 77, j'arrive dans sa vie. Et comme par hasard, et la mémoire qu'il a, limpide, fraîche, extraordinaire, je demande à mon époux, c'est quoi cette mélodie? Donc il sort un disque 33 tours et la voix de Barbara, qui devient pour moi un phare. La chanson, la voix, je ne savais pas que Barbara était juive, mais peu importe. J'aime Mercedes Sosa qui n'était pas juive, j'aime Atahualpa Yupanqui. Pourquoi est-ce que je joue de la guitare? Parce que j'avais 5 ans et que j'étais chez l'épicier espagnol, Don Amalio, chez qui on fêtait Noël d'ailleurs. Et donc Don Amalio allume la télé noir et blanc et j'entends
Atahualpa Yupanqui.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Et je veux une guitare. Donc mon papa, puisqu'on était des conditions très modestes, va dans le marché, et il coupe d'un cajot de pomme la forme d'une guitare. Il dessine les cordes. Et j'ai joué d'une guitare muette en regardant Atahualpa Yupanqui. Et je me suis mise à écrire aussi mes propres chansons, qui n'étaient pas vraiment en relation avec ce qu'il racontait lui, mais ces peuples persécutés, humiliés de l'Amérique du Sud, les Indiens, les Noirs, les Métis, c'est aussi l'histoire du peuple juif. Et donc, entre ma mère qui écoutait la musique classique, une Barbara par-ci par-là, et mon père qui me chantait en yiddish, moi qui apprenais la musique folklorique argentine, parce qu'il n'y a pas que le tango. À Buenos Aires, c'est la capitale, d'accord, je suis porteña, mais je suis très, très amoureuse de la musique folklorique. Donc, on a 22 provinces en Argentine, avec des rythmes très divers, chacarera, cueca, samba, chamarrita, tout ce qui est le littoral.
Baguala.
Et la baguala. Ah, et la baguala.
En fait, je te parle de ça parce que... Quand moi, il y a des années maintenant, j'ai commencé à apprendre le yiddish, j'ai acheté un ou deux disques. Pas grand-chose, en fait, je voulais surtout apprendre la langue, mais j'avais aussi beaucoup aimé les accords, les gammes, les harmonies. Donc, je me suis acheté deux ou trois disques. Et le tien et celui de Shura Lipovsky sont les deux premiers que j'ai achetés. Je les ai beaucoup écoutés, je pense que je les ai quasiment appris par cœur. Et ce que j'avais bien aimé dans le tien... c'était que tu y parlais un petit peu de tes origines argentines et de ton goût pour la musique folklorique, parce que moi j'adore la musique folklorique, j'aime tous les folklores du monde. Donc ça m'avait intéressé, on va dire, et puis effectivement on les retrouvait un peu dans ton disque. Mais j'allais quand même te poser la question du tango, parce que tu viens quand même de Buenos Aires, et à l'époque c'était quand même les grands artistes de... Enfin, le tango restait une musique très importante. Donc, est-ce que tu en entendais à la télévision, dans la rue, ou est-ce que tu les, est-ce que tu en écoutais, et qu'est-ce beaucoup. Que tu écoutais?
Oui, j'écoutais beaucoup, notamment le chanteur Roberto Goyeneche, et dans les émissions de télévision chez l'épicier espagnol, c'était Julio Sosa. Dans les années 50, la voix, le baron del tango, donc le baron, ça veut dire la voix virile du tango, c'était une voix très grave, très belle, très, très enfumée, avec un peu d'alcool. Julio Sosa est mort dans un accident de voiture. Il y avait Goyeneche que j'aimais beaucoup. Ma mère aimait d'autres chanteurs de tango. Et puis un jour, dans les années 68-69, je l'écoutais déjà, un peu dans les cassettes, Astor Piazzolla avec Horacio Ferrer. Et ce fut un coup de foudre, mais d'une violence extraordinaire.
Pour le monde entier.
Pour le monde entier. Mais en Argentine, les Argentins étaient tellement... Il y a ce qu'on appelle la nouvelle vague et la vieille vague dans le tango. Donc la vieille vague n'acceptait pas ce Piazzolla, qui quand même avait été élève de Nadia Boulanger.
Mais trop moderniste, trop révolutionnaire. Disons, musicalement.
Oui, bien sûr. Et aussi avec les textes de Horacio Ferrer. Quand on écoute, bon, et je sais que, je crois que c'était Roda Gil qui a réadapté à travers Julien Clerc la balade par un loco, balade pour un fou. Et cette réadaptation, pour moi, est une trahison totale à la balade par un loco écrite par la main, par la plume d'Horacio Ferrer, qui était un fou en parole, comme Piazzolla l'était en musique. Et ce duo-là, à l'époque, Piazzolla faisait chanter sa femme, sa compagne, qui était Amelita Baltar. Ils se sont présentés dans un festival d'un dentifrice, Odol. Et c'est pas la balade par un loco qui a gagné, c'est une autre chanson dont je suis incapable de me rappeler le titre. Et la balade par un loco était fredonnée partout dans les rues de Buenos Aires, le lendemain. Loco, 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 quand anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sabana vendre, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Bon, cette chanson est dans mon dernier disque, je voulais absolument l'intégrer. Et ben, mon dernier disque qui est sorti en France, bon, beaucoup d'années plus tard. Donc, pour moi, il y avait toujours cette musique folklorique avec Atahualpa, avec Larralde, José Larralde, avec l'Uruguayen Alfredo Citarrosa. Ah, soledad. Póngase un poco a pensar. Doña Soledad. Tu le connais?
Oui, oui.
Oh là là, bon, c'était une voix, un type qui avait une voix très grave, un peu tanguée aussi. Même s'il était uruguayen, il y a des bagarres. Hein. Il y a des bagarres en Argentine. On se dit que c'est le tango est né de ce côté du Rio de la Plata. D'autres disent non, c'est né du côté d'Alfredo Citarrosa. Bon, donc j'étais immergée entre les musiques du littoral, entre les musiques de l'Argentine, toutes provinces confondues, même le sud, même la province de Chubut, Rio Gallegos, Santa Cruz, tous les drames contre les Indiens, tous ces peuples massacrés me faisaient très mal. Et j'imagine que ça me faisait mal aussi parce que j'ai compris, disons, la puissance de la machine nazie. J'avais peut-être 5 ans et j'ai découvert un livre à la maison avec les squelettes dans les camps de concentration. Mes parents ont toujours eu une très bonne façon de nous éduquer, mon frère et moi, parce qu'ils n'ont jamais dit les choses avant qu'on pose les questions. Et je suis allée vers mon père qui était soldat dans l'armée russe. Et je dis, ça signifie quoi ça? Et mon père m'expliquait. Plus je posais des questions, plus il m'expliquait. Donc j'ai pris conscience à 5 ans de ce qu'était la mort. Et de ce jour-là, j'ai décidé que je ne mangerais pas un animal, que je ne toucherais pas à la viande. C'est étrange, hein, j'habite en face du musée de la chasse. Et
surtout Argentine.
Et oui, et je ne touche pas à la viande.
C'est surtout ça le paradoxe.
Non, je ne touche pas aux veaux, je ne touche pas aux vaches, j'aime les animaux, je ne mangerai jamais, même pas un poisson, non, ce n'est pas possible. Et parce que pour moi, le regard d'une vache quand elle allait de son petit, c'est le même regard que maman a envers son petit enfant. Et donc ma mère a eu beaucoup de mal à me convaincre que la viande était importante pour que je grandisse de façon naturelle. Mais elle a essayé de s'adapter, elle a essayé de trouver des substituts. Bref, donc j'ai grandi dans un foyer où ça respirait le bonheur, où papa et maman ont toujours donné réponse à nos questions qui étaient multiples.
Terzei mirote, terzei mir geschwind, weil ich will wissen, alles hat sind. Wie seht aus der Stimmel, wo es heute Morgen geglänzt, sie blieb noch das Weimele, wo sich oben verpflanzt. Der Stiebel ist alt, verwachsen mit Moch und Gros. Der Altere dacht sich fort, der Fenster ohne Gloss. Der Ganek ist krumm, sie beugen die Fend, du wirst doch schon mehr. Seid ihr am Morgen, wenn ich bin. hob gehat di scheine halloi me
Mes parents ont bien suivi mes rêves. En fait, d'abord, je voulais être maîtresse d'école. Et c'est maman qui m'a dit « Je ne suis pas sûre que ce soit ça ta destinée. » Et c'est elle-même qui m'a inscrite dans un concours de chant. Le festival de Cosquín. Cosquín est une petite ville dans la province de Córdoba. Córdoba se trouve entre des fleuves et des montagnes. Et ce qui est très doux, c'est que dans cette province de Córdoba, on parle avec l'accent comme ça parce qu'il y a des montagnes, il y a des fleuves, donc ça monte, ça descend.
Oui, je connais l'accent de Córdoba, ça me fait rire, parce que je trouve ça, c'est vraiment unique dans le monde hispanophone.
Oui, oui. Et donc, elle m'a inscrite pour le festival de Cosquín. J'avais, je crois, 12 ans, j'ai dit que j'en avais 15, donc je m'étais beaucoup maquillée. Et j'ai gagné le concours, mais quand on m'a demandé mes papiers d'identité, j'avais effectivement 12 ans, donc je n'ai pas passé le concours pour aller à Cosquín. Mais je suis allée à Cosquín plus tard, et c'était des peñas. Peñas, ça veut dire ce sont des réunions où chacun prend la guitare et chacun chante, où on prend des empanadas, moi au maïs, les autres à la viande, avec du vin. Et bon, un jour, je connais un homme dont je tombe éperdument amoureuse, donc mon peintre espagnol d'origine, et j'arrive en France, en 77.
Je peux te poser une question sur l'Argentine, parce qu'on a vu un petit peu tes influences musicales, et puis on imagine à peu près ce qu'a pu être ton enfance heureuse dans ton quartier de Buenos Aires. Quel quartier d'ailleurs ?
Villa Lynch.
D'accord.
Villa Lynch. C'est un quartier qui est tout près de là où habitait Ernesto Sabato, le grand écrivain, et lui il était à Sáenz Peña, donc c'est quoi, 4 ou 5 pâtés de maison.
Mais j'allais te demander, à la même époque, quel était ton rapport aux langues? Voilà, parce que tu m'as pas dit, est-ce que ça t'intéressait? Est-ce que tu connaissais déjà un peu le yiddish, voire bien, je ne sais pas.
Le yiddish, je le connaissais depuis ma naissance.
D'accord, alors comment ça s'est passé?
Mon père se levait le matin, s'était fredonné en yiddish, en russe, en polonais. Il fut un moment où il a voulu m'apprendre le russe, et ma mère a dit, écoute, il a déjà assez avec l'espagnol, avec de la danse, à l'école bien sûr. Et puis, j'étais dans une école yiddish, hein.
Je
faisais la double scolarité, donc à 3 ans, j'étais dans un kindergarten, où on m'apprenait par exemple « Die Heften und die Bichele hinterker kleif zu neuf, a heima, heima, heimele, a heimele ich leuf. Bin hungerig, sis gräus mein Appetit, der Tate gitt mir es in Kesakusch, die Mamme gitt. Die Brüder und die Schwesterle, sie spielen sich mit mir, und später zu mein Bobenio, wir machen na Spazier. Die Bobbe gibt mir Spielechler, der Seide gibt mir nicht. Mein teure Mischpochele, ich sah so gut und siehst. Ça, c'est mon Lehrer d'école primaire, Tzalel Blitz, fondateur de cette école yiddish dans la banlieue de Buenos Aires.
Est-ce que c'était surtout des Litvaks ou il y avait aussi des Polish?
Il y avait des Polish, bien sûr, mais c'était des Litvaks qui avaient créé cette école, des Litvaks, des Linke Litvaks, hein, donc. À l'époque, et surtout en Argentine, on ne disait pas « Linke » parce qu'on avait peur des représailles. L'Argentine des colonels, on l'a vu plus tard, c'était toujours un pays réactionnaire quand même. Hein? Un pays où il est marqué dans la Constitution que le président doit avoir la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, tout ce qui était langue, c'était, disons, toléré, mais on ne pouvait pas dire qu'on était de gauche, on était progressiste. Donc, dans cette école yiddish, j'ai appris à écrire le yiddish, j'ai appris à le lire, à le chanter, sauf qu'on avait oublié, comme beaucoup de gens qui étaient des linkés, très accrochés à l'Union soviétique, à écrire en yiddish, sholem, non pas avec les caractères en hébreu, mais avec les voyelles, comme le mot mishpoche par exemple. Donc, c'est en arrivant en France, vers l'année 78, que je m'aperçois que ça ne s'écrit pas comme ça, qu'il y avait une autre façon d'écrire les paroles que je pensais qu'étaient en yiddish. Donc on ne m'avait pas expliqué ce qui venait de l'hébreu. Et comme ma mère écoutait de l'opéra, et que dans le quartier où j'habitais, il y avait des Russes, des Polonais, des Italiens, des Tchécoslovaques, des Indiens araucanos, donc ceux qui venaient du Paraguay. Il y avait des restes d'Indiens du Pérou, Maya, Azteca. Donc j'entendais parler Quechua. Mon père lui-même parlait, papa parlait environ 10 langues. Donc je sais dire 2-3 mots de Quechua ou quelques mots d'araucano. Mais disons que les langues que j'ai bien appris à parler à l'époque, c'était donc l'espagnol et le yiddish notamment.
Et est-ce que les langues t'intéressaient ou te plaisaient à l'époque, ou c'était juste l'air que tu respirais? Est-ce que ça t'intéressait?
Oui, beaucoup. Parce que j'entendais une musique différente dans chaque langue.
La musique?
La musique en elle-même, oui. Mais ça, j'entendais par mon père. Parce qu'il était capable de me chanter en russe, de passer au polonais, même à l'italien. J'avais appris des mélodies italiennes aussi, étant petite fille. Et j'entendais qu'il y avait, que chaque langue était porteuse d'une émotion différente, que ce que je dessinais en yiddish, je ne pouvais pas le dessiner en espagnol, et si je dessinais, si je voulais dessiner la même chose en français après, c'était pas pareil. Je pensais ça quand j'étais petite fille. Et le temps m'a appris qu'une émotion peut passer par toutes les langues. Peu importe que tu chantes en yiddish, que tu chantes en français, que tu chantes en espagnol. Et si je reviens à ce que je disais tout au début, Bells. Ce que la chanson Bells exprime, je le ressens dans cette maison d'enfance qui a été vendue, où je ne reconnais rien. Et je me dis, est-ce que j'ai bien fait de vendre la maison? Mais je répète, et je me répète, on ne part pas avec une maison quand on va à la tombe. Et c'est bien, cette maison va profiter à une petite fille qui joue dans le même patio. J'ai demandé, est-ce qu'on ne coupe pas le citronnier? Donc le citronnier est toujours là. Et j'écris une chanson qui est en relation avec mon quartier, qui s'appelle Barrio Textil. C'était un quartier des tisserons à l'époque, hein, comme beaucoup de juifs de Lodz. Papa était dans le tissage. Et donc je raconte dans cette chanson le bruit des machines à tisser. Je raconte ma mère en tablier de cuisine. Je raconte un baiser voulé au pied d'une porte. Je raconte la lune amoureuse d'un parfum d'eucalyptus. Et si je reviens à Bèze, c'est la même chose. Je suis moins tragique que ce qui a disparu et qui a changé dans ma valse à moi, mais l'idée est la même. Donc quand il y a des gens, c'était des journalistes qui écrivaient il y a un an, 2 ans, elles passent d'une langue à l'autre avec une extrême facilité. Non mais j'ai vécu dans le mélange des langues, donc c'est pas une question de facilité, c'est que cette musique de chaque langue m'a habité depuis que je suis petite fille. Donc c'est pas quelque chose de magique, de passer du yiddish à l'espagnol et maintenant en français, parce qu'il m'arrive maintenant d'écrire aussi en français.
Non, je voulais dire à Cinta que quand j'étais petit, bon, je ne savais pas que je ferais de la musique forcément, parce que même si mon père aimait la musique, ce n'était pas forcément le cas de ma mère. On n'était pas une famille très portée sur la musique. Après, je me suis mis à l'aimer, à adorer la musique et à en faire, mais je ne savais pas enfant. En revanche, tout petit, vers 5-6 ans, j'ai compris qu'il y avait pour chaque langue une voix. Alors, tu vois, pas des émotions, effectivement. Les émotions, on peut les transmettre dans toutes les langues. Mais chaque langue offre des ressources particulières et notamment, je trouve, même si c'est peut-être un peu caricatural, que dans chaque langue, il y a une voix. Par exemple, les Italiens, ils ont souvent, même les femmes, cette voix un peu rauque, bon, très très belle, très sexy, mais un peu rocailleuse. Et c'est vraiment pour moi la musique de l'italien. Et j'associe ça évidemment à la façon dont chantent beaucoup d'Italiens, même s'il y a aussi le bel canto et l'opéra, etc. Mais la musique populaire italienne, souvent les voix sont éraillées, y compris dans la musique populaire qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Et moi j'adore ça et j'ai remarqué ça tout petit. Et dans chaque langue, il y a quelque chose. Donc pour moi, dans ma tête, c'est un peu synesthésique, je ne saurais pas exactement le décrire, mais pour le yiddish, il y a une voix, il y a un timbre, il y a une façon dont la voix sort et ça évoque des choses différentes. Pour moi, il y a une façon de chanter en français, ou disons une voix du français et mille façons de chanter, une voix du yiddish. Voilà, pour moi, une culture, c'est une langue, c'est aussi ça, c'est une musique, comme tu disais tout à l'heure. C'est déjà une musique.
Oui. Je ne me suis pas posé la question comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant, ton point de vue se vaut. J'ai pas songé aux Italiens, mais c'est vrai que les voix sont rocailleuses, effectivement. Mais pas toutes. Il y a des voix comme celle de Mina ou de Milva, qui sont des voix extraordinaires, très propres.
Exact.
Mais c'est des voix puissantes. J'entendais, moi, dans mon enfance, Mina et Milva.
Moi aussi.
Eh oui. Mais tu vois, moi, je me dis aussi, j'ai appris la petite voix d'Atahualpa Yupanqui. Il dit des choses tellement profondes. C'est dans son vécu, mais c'est un poète qui parle. Donc un poète n'a pas besoin d'être chanteur. La musique est déjà dans la façon de dire les vers, de les lier. Et c'est grâce à lui que j'écris, grâce à lui et à García Lorca. Et je me rends compte que dans ma façon d'écrire les vers en espagnol, en général en octosyllabes, il y a beaucoup d'influence de García Lorca et d'Atahualpa. Mais il m'arrive maintenant de faire des adaptations en yiddish de thèmes plus ou moins connus. Un gamin de Paris, j'adapte en yiddish pour ma chorale, par exemple. Si je ne trouve pas toujours les mots, ben je demande à une de mes choristes, Julie, qu'elle me donne un peu d'aide. J'ai adapté en yiddish Gracias a la vida de Violeta Parra. Et j'ai adapté en yiddish Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, qu'on va chanter lors de la rencontre des chorales. Alors, je l'ai adapté parce que je l'ai ressenti. Alors, j'aimerais bien pouvoir l'écrire en yiddish, mais bon, je me dis que je suis plutôt bonne pour l'écrire en espagnol, c'est tout de même ma langue maternelle, et je me sens pas trop mal en train d'écrire en français. Mais je sens que les moments, c'est vrai que, peut-être que tu vois juste, les moments pour écrire en français et pour écrire en espagnol, voire en yiddish, ne sont pas les mêmes moments de la journée. C'est comme si j'étais cyclique. Ça m'a fait penser, ça m'amène vers la psychanalyse, tout ça. Il y a probablement une histoire de cycle, de ma propre vie qui rentre en jeu. Est-ce que je suis enfant quand j'écris en espagnol, donc du coup je peux écrire le matin? Est-ce que je suis une femme qui a pris un peu de la bouteille, comme on dit, quand j'écris en français, j'écris souvent à 3h, 4h du matin?
Et donc tout ça est très édipien, parce que lui aussi, le sphinx, un pied, deux pieds, trois pieds, en ce moment tu as une canne, donc...
Oui, je suis... on peut dire que j'ai la chance que j'ai trois pieds, hein.
Oui.
Et il y a aussi une chance, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a très peu de temps, j'ai reçu deux emails, très forts. On me dit qu'on a besoin de moi, que je n'ai pas le droit de souffrir. Or, je souffre terriblement. Cette douleur est quelque chose de brûlant. Et je me dis, bienvenue, sois Madame Dolores. Parce que ce que je n'ai pas appris dans le bonheur ou dans la joie, je l'apprends dans la souffrance. Et je crois que cette douleur m'enseigne, me permet de chanter autrement. Je sais ce qui est la vie, donc ce n'est pas facile de vivre. Et je sais que mon combat contre la douleur, je le gagne en chantant. Donc quand je n'en peux plus de cette douleur, à 3-4 heures du matin, je me lève et je prends la guitare.
Et tu chantes en quelle langue à 3-4 heures du matin ?
Peu importe, ça peut être... Ben, hier soir, c'était Belz. Mais bon, c'est pas du hasard, c'est parce que je suis en train de l'enseigner à ma chorale. Et que j'essaie aussi de trouver un raisonnement en moi-même pour pouvoir transmettre certaines choses. Par exemple, j'écris une deuxième voix dans cette mélodie et je l'ai enseignée aux altos. Donc je leur dis Dergane qui se croum, se boigne divent. Donc j'ai dit, les filles, il ne faut pas plomber cette deuxième voix. Quand on a écrit Dergane qui se croum, le balcon s'est effondré. Les fenêtres sont cassées. C'est boigne divent. Donc si je fais répéter la phrase, ce n'est pas pour blaf, pour frapper, c'est pour dire regardez ce qui est devenu mon village de Belz. Il ne reste rien. Tout est foutu. Il n'y a que la mémoire pour sauver tout ça. Et donc je me dis, j'ai ma mémoire pour me dire que si la douleur est importante, il n'y a qu'avec ma mémoire que je peux effacer cette douleur. Et cette mémoire, c'est peut-être la voix de mon père.
Textil, del saludo en la mañana, de parrales en los patios y de tejas en las casas, de un barrio donde el vecino se presta pan y cebolla y un vasito con moscato para dar gusto a la torta. Yo vengo de un barrio de esos donde en tardes de verano está en la calle, prendido un mate en la mano. Es un sitio en que los pibes juegan aún a la pelota, un sitio donde alguien grita por una ventana rota. Se quedó soltera, es el canto de mi padre a su vieja Loch querida y la imagen de mi madre en delantal de cocina. Mi barrio es el tren que pasa sobre los riles dormidos y la luna enamorada de un perfume de eucaliptos. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la, y la luna enamorada de un perfume de eucaliptos, de un perfume de eucaliptos.
A mole is given in a golden land, a kluger ben yochid, scheiner brillant. Sie singt und es tick-tack den Segers um Ruh, uns wiegele heudet sich heilululu. Sie singt und es tick-tack dem Segers um Ruh, uns wiegele heudet sich heilululu. Und hör ich das Liedel, das süße Gesang, dann werd euch'n Herz also jummetig bang. Und's will sich wie die Mame mit Herz und Gefühl das Liedel mir singen, euch spiel es mir Spiel. Und's will sich wie die Mame mit Herz und Gefühl das Liedel mir singen, euch spiel es mir Spiel.